France Info.
L'actu média, Céline Baydarcourt, Léo Chapuis en parlait il y a quelques instants de ce match entre les Françaises et les Norvégiennes hier soir avec une audience canon.
Oui, on a aussi les chiffres de Canal+, 900 000 téléspectateurs hier soir, plus 9 400 000 sur TF1, ça fait au total, Marc. Allez, 10 300 000.
Voilà, j'attendais que vous le donniez.
10 300 000, quasiment le même score que vendredi dernier pour le match des Bleus face à la Corée du Sud.
Toujours en bref, un préavis de grève déposé ici même à Radio France.
Les syndicats appellent à cesser le travail le 18 juin, mardi prochain, pour, je cite, faire échec au sabordage de l'entreprise. La présidente Sybille Veil a annoncé la semaine dernière un plan d'économie de 60 millions d'euros sur 3 ans, qui va se traduire notamment par 270 à 390 départs volontaires.
Notre invité à présent, il est le co-auteur d'un documentaire à voir ce soir sur France 2, c'est l'histoire de la création du JT, le journal télévisé à l'occasion de son 70e anniversaire.
Bonjour Hervé Brusini.
Bonjour.
C'est aujourd'hui une institution, hein, ce journal de 20h, mais ses débuts ont été laborieux, on le découvre dans votre film, qui commence en 1945. Il n'y a pas grand-chose à la télé à cette époque-là. Hein.
Non, un film fait avec Alain Vider et réalisé par Jimmy Lepot. Je dis ça, c'est sinon dit. On m'arrache les yeux.
Ça, c'est fait.
Et donc, oui, non, il n'y a pas grand-chose qui permet d'y croire parce que les Français, le pouvoir politique n'investit pas. Et les seuls à y croire, c'est ceux qui ont envie de faire de l'information en images, et en particulier Sabag, puisqu'il va voir son directeur.
Alors Pierre Sabag, qui est à la base un journaliste de radio.
Oui, un journaliste de radio, il aurait pu être d'ici, fasciné par l'image. D'ailleurs, en 1946, il va déjà faire un coup de ballon en haut. Il va passer au-dessus de Paris avec un poste-émetteur, raconter aux gens tout ce qu'il est en train de voir, et puis se cracher à 40 km de Bordeaux, ce qu'il va refaire 3 ans plus tard, mais cette fois pour
exactement
la télé.
Alors, son idée va mettre 4 ans à peu près à voir le jour. Et Pierre Sabag a reçu 2 soutiens essentiels, d'un abbé et d'un jeune secrétaire d'État.
Oui, c'est des soutiens étonnants, de circonstances historiques, on va dire. L'abbé, c'est Raymond Pichard, qui va créer Le Jour du Seigneur à la télé et qui va persuader le pape que là, il y a un instrument pour évangéliser, ouais, absolument génial. Et du coup, le pape, il va écrire plein de bulles sur l'image, la télé, les médias. Et puis aussi, le jeune secrétaire d'État, c'est François Mitterrand, qui lui va investir dans un truc qui va faire flop, la haute définition, 819 lignes, et donner un premier statut à la télévision, puisqu'il va appeler ça non plus la RDF Radio Diffusion, mais Radio Télévision, avec la redevance. Ouais. Qui va venir alimenter la télé.
Alors 1949, ça y est, Pierre Sabag a enfin le feu vert pour créer son journal. Il doit maintenant constituer son équipe.
Je cherchais des collaborateurs pour le journal, je cherchais des journalistes. Personne ne voulait venir. Alors personne s'enfermait dans le placard de la télévision. Alors personne. Et puis j'ai écouté une émission, c'était au club d'essai, et j'ai entendu « Un mauvais quart d'heure a passé ». Ah, je me suis dit, il n'a pas froid aux yeux celui-là.
Mais c'était vrai.
C'était vrai, c'était lui.
Et c'était lui, c'était Pierre Tchernia.
Oui.
Il y a aussi Claude Darget, Pierre, oui, Dumayet, Georges Decaune.
Et Jacques Salbert.
Ça, c'est l'équipe
en
pionnière.
En fait, ils sont 25. Et puis, des grands JRI, des grands caméramens, comme Michel Vakevitch, Pasquette, Lariaga, qui va devenir un grand réalisateur des grands directs de télé.
Alors, on a les images du premier journal télévisé et puis de tous les autres, mais jusqu'en 1953, on n'a pas le son.
Non.
Pas les commentaires lus en direct par les journalistes. Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens d'enregistrement. Et donc, on a fini par découvrir que s'ils gravaient sur des disques. Et on a même trouvé, il y a 2 mois, Alina, la découverte sensationnelle, tout en camon. On a découvert des disques totalement mous. Ça s'appelle le recordon en français, en fait c'est le record on, et il y a 3 ans de son qu'on va pouvoir remettre sur les pellicules dont on disposait et qui étaient muettes. Je vous assure que ça, c'est une découverte importante due au personnel de l'INA.
Alors la télévision a très peu de moyens au début, le journal télévisé donc logiquement aussi, mais il va prendre une nouvelle dimension grâce au couronnement d'Elisabeth II en 1953, premier direct mondial. La télé, là, entre enfin dans le quotidien des Français. On se rue vers les postes de télé à partir de cette époque-là.
Bien sûr, on est dans les rues, on se rue sur les vitrines et on va se ruer à l'intérieur du magasin pour acheter les postes. Et c'est comme ça que l'audience va commencer à se constituer, qu'il va y avoir un public. Et c'est ce public, à force d'être puissant, qui va obtenir 20h en temps horaire, en 1957.
Au début, c'était à quelle heure,
au début, ça a été 21h, 20h30, qui dit mieux, 19h45. Ça a été une folie pure, et c'est les gens qui ont dit, non, écoutez, finalement, c'est 20h. Et vous savez pourquoi on le sait? Parce qu'il y a un rapport de chef de chaîne qui dit, les gens n'arrêtent pas d'hurler, faudrait quand même le mettre à 20h, et c'est comme ça que ça a été à 20h.
Parce que 20h, c'est l'heure du dîner.
Oui, c'est ça, c'est l'heure du rendez-vous qui est restée un petit peu comme ça, un peu plus tôt en région. Et c'est pour ça aussi que plus tard, on inventera le 19-20.
Nouvel extrait de votre documentaire, Hervé Brusigny, avec Pierre Sabac qui se met en scène en allant interviewer le président du conseil, Guy Mollet, dans son bureau.
Monsieur le Président, tout d'abord, je tiens à vous remercier de bien avoir voulu recevoir le spectateur français que je suis, car je représente ici l'ensemble des spectateurs français. Puis-je me permettre d'être indiscret en leur nom ?
Très volontiers. Il est trop normal que les téléspectateurs sachent où et comment travaille le président du Conseil.
Et oui, ça y est, les dirigeants politiques ont compris la puissance de la télévision.
Ah bah plutôt. Et alors là, on va faire une sorte de pantomime. Parce que tout est totalement écrit. Il y a même un coup de téléphone avec personne au bout du fil pour interrompre l'interview. C'est un truc assez grotesque. Mais il faut dire que Sabag, quelques années plus tard, va écrire une lettre dévastatrice pour dire « Moi, j'en ai ras-le-bol que tout le monde s'invite au journal. Le journal, ça doit être indépendant. Arrêtez de m'emmerder. » Il l'écrit comme ça. « Qu'est-ce que je fais dans cette galère? J'ai envie de partir. »
Pourquoi n'y a-t-il pas de présentateur à l'époque et à quel moment est apparu le présentateur?
Parce que c'était un dogme. Sabag s'était dit, je vais faire de la même manière que les actualités au cinéma. Moi, c'est l'image, je veux montrer d'abord, je veux pas faire de la radio filmée, pardon. Et surtout...
C'est la mode.
Et surtout, je veux pas faire comme les Américains, parce que les Américains, eux, ils vendent des produits, ils vendent des cigarettes. Moi, je vends de l'information, je vends de l'image, et ça, c'est plutôt très respectable.
Merci beaucoup Hervé Brusigny. Il était une fois le journal télévisé. C'est ce soir à 23h sur France 2. Ce sera précédé d'une grande soirée consacrée aux 70 ans du JT, animée par Anne-Sophie Lapix et par Laurent Delahousse, qui s'y connaissent un tout petit peu en JT.